Et voilà, nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Galère, sur 88.4 dans la modulation de fréquence, et sur Internet, depuis les Tuamotu, l'Alaska et la Terre de Feu, puisque dans le monde entier, on peut écouter Radio Galère, pour au moins les francophones. Il y en a un peu partout, on le sait. Alors j'avais choisi aujourd'hui de passer par des petites nouvelles qui en même temps font sens, c'est-à-dire, bien sûr, les informations générales, les synthèses, ceci va se passer, machin et tout, on vous en abreuve à longueur de temps, quitte à vous raconter des sornettes. J'essaye aussi de mon côté de vous donner des perspectives générales, mais il y a quelquefois des moments où une petite chose, une petite dépêche en dit plus sur un fait isolé, sur une réalité globale. Et c'est pour ça que je vais vous lire un communiqué qui a été diffusé par Euro-Palestine Solidarité et qui traite du cas de deux jeunes Palestiniens. Et je vous la lis. Parce que ça en dit plus en quelques lignes que tout ce qu'on peut vous raconter à des longueurs de minutes ou d'heures sur les antennes. Voilà ce que ça dit. C'est avec la plus grande inquiétude que nous vous alertons sur le cas des jeunes Wissam et Mohamed Tamimi du village de Nabi Saleh, près de Ramallah. Donc c'est dans ce qu'on appelle les territoires. Ils sont torturés depuis un mois par les services secrets israéliens sans que le monde soit au courant. Donc voilà, premier choix de cette dépêche, c'est de vous dire, vous n'avez jamais entendu, vous n'entendrez peut-être jamais parler de Wissam et Mohamed Tamimi, mais ce sont deux jeunes gens qui ont été pris par les services secrets israéliens et qui sont en cours de torture, appelons ça par son... Je continue. Wissam Tamimi, 17 ans, et Mohamed Tamimi, 20 ans, ont tous deux été blessés au crâne par l'occupant israélien. Ils ont été kidnappés début juin à l'aube à leur domicile après un raid de l'armée israélienne qui avait tué le petit Mohamed de 2 ans et demi et blessé plusieurs autres civils. Ça, c'est la vie quotidienne dans les territoires. Comme on dit, hein. Voilà. Ils devaient être jugés par un tribunal militaire dimanche. Mais leur procès vient d'être reporté pour la troisième fois. Donc il n'aura lieu pour Wissam que le 7 août et pour Mohamed le 14. Du coup, je continue la lecture de la dépêche, l'occupant israélien les a renvoyés pour interrogatoire, vous voyez ce que veulent dire les guillemets dans ces cas-là, au centre de torture de Moscou-Billet à Jérusalem, appelé l'abattoir par les Palestiniens. Alors là, abattoir, le mot est entre guillemets, mais l'expérience est acquise. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, des milliers de jeunes Palestiniens qui y sont passés. Je continue la lecture. Leurs parents n'ont pu les voir que pour quelques secondes au tribunal ce dimanche et ont juste pu constater qu'ils étaient dans un triste état. Ce n'est pas simplement l'attente de la comparution, hein, ils sont dans l'abattoir. Ils ont été battus par les tortionnaires. Mohamed a perdu un œil, déjà fragile, sous les coups, et après avoir été aspergé par du gaz lacrymogène. Ils sont l'un et l'autre en cellule d'isolement entre deux interrogatoires. Et alors, comble de la barbarie, ils gèlent car la climatisation est mise à fond délibérément. Ça veut dire, alors, je sous-entends ce qui est dans la tête du tortionnaire, qu'ils en crèvent, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est pour ça que cette dépêche est poignante et elle dit tellement plus de choses que des grands commentaires humanitaires. Et je continue. L'armée avait défoncé le crâne il y a 6 ans de Mohamed Tamimi, le cousin de Ahed Tamimi, le laissant handicapé à vie. Il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et plastiques pour retrouver un visage normal. Alors le normal là, est aussi entre guillemets, c'est-à-dire il était défiguré. Mais se trouve désormais invalide dans l'incapacité d'étudier ou de travailler. C'est-à-dire ils ont fabriqué un déchet humain. C'est ça qui a été fait. Bon. Wissam Tamimi avait quant à lui été blessé par la balle alors qu'il se trouvait il y a près de 5 semaines sur le toit de sa maison en train d'observer l'invasion israélienne. Il ne tirait pas avec une mitraillette, il l'observait. Hospitalisé pour une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale, il a été enlevé par l'armée dès sa sortie de l'hôpital. Des avocats, c'est une bonne chose, ont décidé de porter plainte en France contre les responsables de ces tortures, la Convention internationale contre la torture le leur permettant, parce qu'elle est d'application générale. Pouvez-vous nous aider à faire connaître leur situation et intervenir auprès de vos représentants pour qu'ils fassent cesser la torture et l'emprisonnement de ces jeunes Palestiniens ? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Comme vous l'avez constaté, ça c'est la leçon générale, les fascistes au pouvoir en Israël ont assassiné 12 Palestiniens lors d'une attaque par les airs et la terre la semaine dernière à Jenin. Ils poursuivent actuellement leur massacre, multipliant les raids de soldats dans cette région, ainsi qu'à Naplouse, Turkalem, Hébron, Jérusalem et près de Ramallah. Ils laissent également les colons perpétrer des pogroms en Cisjordanie occupée. Mais, note d'optimisme, ils ne réussissent pas à vaincre la résistance palestinienne pour l'instant. Et le dernier commentaire qui suit la publication de ce communiqué, qui en lui-même est poignant, au moment où ces phénomènes se passent là, mais ce n'est pas les seuls puisqu'ils sont répétitifs hélas, la France a demandé, à la suite des fameuses émeutes, à Israël des conseils pour mater les jeunes. Pour mater à la France. C'est-à-dire que la France a demandé le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, dont on a senti qu'il pourrait devenir Premier ministre dans les jours qui viennent, a demandé à Israël de lui donner le mode d'emploi de la sauvagerie. Bon, c'est tout à fait clair. Alors, vous savez que l'Israël, ce n'est pas seulement des conseils sur comment faire pour taper sur quelqu'un, c'est aussi la vente de matériel. Le matériel, voilà, identification faciale, etc. Ouais. Tout ce qu'on veut... génétique, tout ce qu'on peut imaginer. J'en suis même à me demander, mais je ne suis pas assez versé dans les questions de biologie, si les Israéliens ne vendent pas des logiciels d'identification faciale en disant « on peut avec nos logiciels dire que quelqu'un est un arabe ou n'en est pas un ». Je pense que s'ils n'y sont pas arrivés, je suis convaincu qu'ils ont cherché. Et que peut-être ils trouveront une astuce, je ne sais pas laquelle, anthropométrique, quelque chose. Mais comme ils sont tellement imprégnés de cette culture raciale, hein, au point que vous savez, à une période, je le redis parce que maintenant c'est un peu, on a un peu oublié, ils ont trouvé que les Kurdes, en particulier que les Kurdes du nord de l'Irak qui menaient la vie dure à Saddam Hussein et qui maintenant étaient pratiquement indépendants du régime de Bagdad, avaient de l'ADN juif. Hein. Alors ça, c'était encore une élucubration, mais ça voulait dire que ces gens-là, du fait que racialement, ils étaient juifs, il y avait des choses à faire avec eux contre l'ennemi arabe qui était Saddam Hussein. Quoi que fût Saddam Hussein...
Barzani.
Oui, c'était l'équipe de Barzani, exact. Ouais. Et sa famille. Et alors, les Barzani qui sont des corrompus, des voyous, des affairistes, enfin, c'est des, ils ne sont pas du tout fréquentables, mais ils avaient...
Ils défendent même pas la cause des Kurdes.
Ah non, même ils la desservent à la limite. Ouais, parce que voilà. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que la résistance kurde, au moins irakienne, soit divisée, puisqu'il y a, à l'opposé au clan Barzani, qui est un clan de voyous, c'est une mafia, hein, le clan de Talabani, qui est un autre dirigeant kurde irakien, qui s'oppose et qui n'accepte pas. Mais ce n'est pas simplement deux bandes qui s'observent, c'est deux milices armées qui s'entretuent chaque fois que l'occasion se présente. C'est ça, le Kurdistan iranien. Bon, c'est bon à savoir. Donc je m'arrête là-dessus, mais ça me paraissait intéressant sur un petit fait comme ça, de dire, voilà, c'est ça la réalité. Alors, on pourrait faire ce genre de lecture quasiment tous les mardis. Alors, je ne le ferai pas parce que réfléchissez individuellement. Rendez-vous compte que quand vous regardez ou que vous écoutez une information de caractère général sur Netanyahou par-ci, Netanyahou par-là, il y a ça derrière. Il y a ça, des handicapés, des gens défigurés, des gens qu'on met dans une cellule étroite avec la clim à fond pour qu'ils crèvent. Hein. C'est ça. Bon. Il faut le dire, mettez-vous ça tranquillement dans la tête, que ça ne vous gâche pas votre été si vous êtes en vacances, mais ça fait partie du monde dans lequel nous vivons et c'est des aspects sur lesquels nos grands médias ne s'appesantissent pas. Bien entendu, ce n'est pas propre, ce n'est pas joli à présenter. Et pour rester un peu dans l'horrible, je vais vous parler de la Lituanie.
Excuse-moi, excusez-moi, il n'existe pas une plainte déposée à la CPI contre Israël ?
Là, ils disent que des avocats ont porté plainte pour torture.
D'accord. Mais alors, rien à la CPI
pas, je ne pense pas que ce soit devant la CPI.
D'accord.
Alors, y a des... Non, ce qui est à la CPI, c'est le dossier dont Gilles Devers nous a parlé à l'occasion. C'est des dossiers donc instruits par des familles palestiniennes pour crimes contre l'humanité à partir d'un certain nombre de meurtres commis par l'occupant israélien. Donc ça, c'est un dossier qui avance et dont le point de passage qui était important est réussi, c'est-à-dire que la commission... La CPI a reconnu la Palestine comme un État de droit dans lequel elle peut intervenir. Voilà. Ça, c'est un vrai progrès. Après, les procédures à la CPI sont longues.
Hein. Mais, alors, il s'est passé des choses depuis 1948.
Hein. Mais oui, quand même.
Non, on en parle.
Quand même.
Ouais.
Alors, deuxième sujet, je voulais vous parler de la Lituanie. Alors pourquoi vous parlez de la Lituanie ? Parce que ces jours-ci s'ouvre le sommet annuel de l'OTAN, qui réunit donc les chefs d'État, chefs de gouvernement et tout, dans une circonstance bien particulière, donc à Vilnius, qui est la capitale du premier... Enfin, il y a trois États baltes, vous les situez sur la carte. Le plus au sud, c'est la Lituanie. Le deuxième, c'est la Lettonie. Et le troisième, plus au nord, c'est l'Estonie. Bon. Ouais. Alors, ce sont trois petits pays. Ce sont trois pays peu peuplés et de moins en moins peuplés, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, en Lituanie, qui est le plus peuplé des trois, il y a 2 700 000 habitants. Les taux de natalité, ils sont extrêmement faibles. Et la population, dès qu'elle a l'occasion de partir, s'en va. Donc c'est des pays en voie de disparition quasiment démographique. Alors ça va plus ou moins vite.
Certainement, mais... c'est le temps, non, il fait très très froid. Hein.
Voilà, le climat est difficile. Mais enfin, ils ont l'habitude, ils y ont vécu depuis longtemps. C'est un climat qui ressemble à celui de la Pologne ou du Biélorusse, du Bélarus à côté. Mais le fait que désormais ils soient dans l'Union européenne, qu'ils soient dans l'OTAN, ça leur a ouvert les portes. Et donc, tous ceux qui peuvent partir s'en vont. C'est tout à fait clair. Donc, c'est des pays en voie de dépopulation. Donc, de 2,7 millions, la Lituanie pourra peut-être passer à 2 millions dans quelques années. Enfin, ça, c'est leur problème. Mais ce que je voulais dire pour parler de la Lituanie, c'est que la Lituanie, quand l'armée nazie, après donc l'invasion commencée le 22 juin 1941 en direction de l'URSS, elle est passée par là. C'était le chemin avant d'arriver. Et donc les trois républiques pâles faisaient à l'époque partie de l'URSS. Donc il y avait la Pologne où il n'y avait plus de gouvernement. Et puis on arrivait là, on était dans l'URSS. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et dont on ne vous parlera pas probablement cette semaine ? C'est qu'il y avait à l'époque 250 000 juifs sur le territoire de la Lituanie. À la fin de l'année 41, il en restait 5%. 5%. C'est-à-dire que dans les premières semaines de l'invasion nazie, la quasi-totalité des juifs lituaniens ont été passés par les armes. Bon. Alors, c'est peu connu, mais ça méritait d'être dit, parce qu'en plus, ça n'est pas rentré... Ça a été vrai aussi en Lettonie, en Estonie. Ce n'est pas rentré dans la commémoration de l'Holocauste parce qu'il n'y a pas eu la mise en scène et l'utilisation de moyens industriels. C'est-à-dire, on est en 1941. Le gros s'est fait en 1941. Après, ça a continué un peu, mais ils étaient presque tous morts. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc, c'était des systèmes très simples. C'était ce qu'on appelait les Einsatzgruppen, des groupes spécialisés de la SS qui chassaient les Juifs. Alors, même il y avait des habitants qui leur disaient où ils étaient, etc. C'était une communauté importante, 200 000 habitants, 250 000. Bon. Et donc, quand ils les avaient trouvés, eh ben, par un moyen ou un autre, on les liquidait. Alors, à coup de fusil, quelquefois, il y avait un classique, je le dis parce que c'était comme ça, on les enfermait dans un camion bâché et on mettait le tuyau d'échappement sous la bâche, c'est-à-dire qu'on les étouffait avec les gaz d'échappement. Enfin, il y avait des tas de techniques, j'allais dire, élémentaire, sommaire, qui laissait penser qu'ensuite ça serait pire.
J'ai l'impression que l'État d'Israël ne se rappelle pas de tout ça.
Mais voilà, ça ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas le savoir parce qu'ils vont trouver que c'est très très bien la guerre d'Ukraine, etc. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire, ils font commerce de cette chose-là, mais ils ne voient pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et on est en vain des critiques sur le comportement des Lituaniens. Bon, c'est ça qui s'est passé, il fallait qu'on le rappelle, puisqu'on ne vous en parlera probablement pas, on va vous parler du sommet de l'OTAN, des négociations aussi, enfin je ne sais pas ce qui va se passer de très intéressant.
Je voulais juste ajouter, en France on a le plus grand prisonnier, Abdallah.
Tout à fait, Ibrahim Abdallah, Georges Ibrahim Abdallah.
Il devait être libre depuis longtemps.
Depuis
et à la
plus
demande
de
d'État d'Israël et de l'Amérique, je crois, ils le maintiennent jusqu'à présent. C'est honteux à Macron.
Tout à fait, et à ses prédécesseurs, Hollande, Sarkozy et tout. C'est-à-dire que la demande, il suffirait qu'il soit extradé, il sort de la prison de Lannemezan où il est extradé le jour même par le ministre de l'Intérieur et il repart au Liban, puisqu'il est citoyen libanais, et on n'en parle plus. Mais il a exécuté sa peine et bien au-delà, et c'est parce qu'Israël ne veut pas qu'il rentre au Liban, en lui imputant des attentats qu'il n'a pas commis sur des citoyens israéliens en plus, que Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison. Je crois que ça fait 15 ans maintenant que la sanction est exécutée. Il a purgé sa peine.
Oui, oui.
Bon. il a purgé sa peine.
Je voulais les dire.
Tu as raison de le rappeler, parce qu'on ne le rappelle pas assez souvent. Alors, il y a effectivement des comités de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Il y a tous les ans une manifestation à Lannemezan devant la prison. Lui-même fait preuve d'une résistance physique, intellectuelle exceptionnelle, hein, puisqu'il continue à écrire, à communiquer, etc. Mais les chances de sa sortie de prison sont extrêmement faibles, hein, vu l'état de nos l'état d'alignement des gouvernements français sur la politique sioniste. Voilà, j'en finis sur la Lituanie, mais je voulais signaler ça, parce que c'est peu connu. Il y a un seul livre que j'ai trouvé cité, qui a fait le bilan de cette extermination de masse des juifs lituaniens, mais il n'est pas traduit, c'est un livre écrit en anglais, comme dans beaucoup de cas semblables. Vous ne le trouverez pas dans les bibliothèques, il existe, c'est connu, mais on n'en parle pas, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est une annexe de l'Holocauste, mais toute petite, c'est 95% des juifs lituaniens ont été passés par les armes, sans défense. Ils ne se sont pas battus. On les a pris un par un, ou famille par famille, et on les a détruits. Bon, c'est ça. Et là, je ne pense pas que ni Biden, ni Macron, ni un autre feront allusion à ces événements sur le sol lituanien qui ne désordent pas. Enfin, s'il y avait des. Alors, il faut savoir, si, quand même, une précision. Les nazis ont trouvé un appui permanent et très, très appuyé de la population lituanienne non juive. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ça comme ça tout seuls. Ils ont trouvé sur place les gens qui étaient contents de participer à ce massacre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il faut le situer aussi par rapport à ce qui se passait au même moment, parce que quand les mêmes troupes nazies, enfin d'autres troupes, sont arrivées en Ukraine, il s'est passé exactement la même chose. Et donc les ancêtres de M. Zelensky et autres membres de la direction ukrainienne actuelle faisaient partie de ces Ukrainiens qui, avec un soldat de la Wehrmacht à leur côté ou avec un SS de la Gestapo à leur côté, disaient « Ah, là, il y a des Juifs !» Et on les fait sortir et on les abat. Hein ? On compte plusieurs centaines de milliers de Juifs ukrainiens abattus de cette façon-là dans les premiers jours de l'occupation de l'Ukraine par les nazis. Tout ça, ça... Alors après, quand on nous dit « Zelensky est juif », eh bien... C'est bien possible, mais ça n'a aucune importance. Ça n'enlève rien à ces faits historiques. À la limite, ça le fait considérer comme un triste sire et un pauvre imbécile, qui n'est même pas conscient de cette réalité-là. Mais c'est vrai qu'on lui a tellement monté la tête, il se croit tellement un personnage historique important, que je pense qu'il ne pense plus à grand-chose.
C'est un pantin.
C'est un pantin, n'en parle plus. Alors, on verra bien, on en parlera mardi prochain, ce qui se sera passé au sommet de Vilnius, mais... Simplement un mot pour dire que c'est un sommet compliqué où les membres de l'OTAN arrivent sur des positions assez diverses quand même, avec des gens qui veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire détruire la Russie, c'est tout à fait clair, il y en a. Des gens qui sont un peu plus réalistes, puis il y a des militaires quand même qui sont derrière, vous savez, ça va être difficile, d'autant plus que ce qu'on voit, c'est que l'armée russe, on n'a pas détruite, on n'a pas réussi du tout à les détruire, et que la fameuse offensive... Alors, elle est minimisée dans les médias occidentaux. Ils disent bien qu'elle a traîné, ça a été difficile, il va falloir se réarmer, etc. Bon, personne dit que ça a été un grand succès.
Ils ont perdu aussi bien les Américains que l'OTAN. Hein.
Tout à fait. Hein, donc, on essaiera de noyer le poisson en disant que ça va repartir et tout. Et puis, on va débattre quand même d'un sujet qui est central du point de vue de l'humanité, c'est-à-dire de l'utilisation des nouvelles armes dont l'usage est annoncé par le président Biden lui-même. C'est-à-dire, je veux parler des armes à fragmentation.
Oh, ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Je rappelle, parce qu'on sait exactement, hélas, ce que c'est. Une arme à fragmentation, c'est une arme, c'est une bombe, si vous voulez, la forme d'une bombe, mais qui, à l'approche du sol, explose et s'ouvre. Et donc, elle répartit sur toute une superficie, selon sa taille et selon le nombre de morceaux fragmentés qui existent, des petites mines hein, qui se posent sur le sol, qui, même s'y enfoncent et tout, qui vont pouvoir rester là des dizaines d'années. C'est-à-dire que, dans 15 ans... un enfant ukrainien, s'il y a encore des enfants ukrainiens à l'époque, qui circulera dans la campagne, pourra sauter sur un morceau d'une bombe de fragmentation.
C'est ce qui se passe en Irak.
Voilà, c'est ce qui se passe en Irak. Et c'est ce qui s'est passé aussi très largement au Laos et au Cambodge. C'est ça qu'il faut savoir.
D'ailleurs, c'est des armes très, très anciennes. Hein.
Oui. Et puis, c'est pas très compliqué.
Ils veulent s'en débarrasser.
Oui, c'est pas très compliqué techniquement. Il n'y a pas de choses extraordinaires dans leur conception. Mais c'est simplement un danger. Non, alors, ça sert à rien dans les combats. C'est-à-dire que vous envoyez ça sur une armée qui est embusquée dans des bunkers, etc., ça ne lui fait absolument rien. Les victimes principales des armes de fragmentation, ce sont les civils après. Et après, ça peut dire 10, 20, 30 ans après. Hein, il y a encore des gens au Cambodge et au Laos qui sautent sur une arme à fragmenter, sur un morceau d'arme de fragmentation. Et il y en a encore un aux Philippines, puisque j'ai là un communiqué du Parti communiste philippin qui dit, je vous le lis très rapidement, « Le Parti communiste des Philippines condamne le gouvernement américain pour son projet de fournir des bombes à fragmentation au gouvernement ukrainien Zelensky. » Le plan a été annoncé jeudi dernier par Joe Biden dans le cadre de son nouveau paquet militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Et le Parti communiste philippin rappelle qu'en 2008, plus de 120 pays ont signé la déclaration d'Oslo interdisant l'utilisation des bombes à fragmentation pour le motif, alors je m'arrête là-dessus, pour le motif, parce qu'en fait c'est la guerre aux civils, c'est pas du tout la guerre aux militaires, ça ne sert à rien dans la guerre, c'est uniquement pour les civils. Et je reprends, les États-Unis ainsi que la Russie, la Chine, Israël et d'autres n'ont pas signé la déclaration. Lorsqu'elles sont larguées depuis les airs, les bombes à fragmentation explosent avant d'atteindre la Terre, causant des dégâts plus étendus et répandent des bombes plus petites qui s'enfouissent dans le sol, laissant un champ de mines explosives qui constitueront un danger pour les civils. Le Parti communiste philippin dénonce les États-Unis pour avoir continué à attiser la guerre en Ukraine en versant des armes au gouvernement Zelensky conformément à la volonté américaine de prolonger la guerre dans l'espoir de dégrader la capacité militaire de la Russie. Le gouvernement ukrainien a recherché les bombes à fragmentation qu'il espère, par laquelle il espère provoquer un impact psycho-exceptionnel extraordinaire contre la Russie. En fournissant ces bombes à fragmentation, le gouvernement Biden encouragera directement les violations du droit international humanitaire.
Et c'est défendu, je crois. C'est une...
Oui, en plus, tout à
c'est
fait.
Complètement non, puis on interdit, sait que c'est, quoi.
Voilà, et ça n'avance à rien dans le conflit. Hein, voilà, c'est simplement montrer, s'en prendre aux civils en disant « Vous payerez longtemps, vous avez été opposé aux États-Unis, vous en crèverez pendant des générations. Il est interdit de s'opposer aux États-Unis sous peine de mort à terme. » Et donc, le petit enfant qui naît aujourd'hui au Laos, au Cambodge, aux Philippines, ils en ont eu aussi, rien ne dit que dans 10 ans, quand il ira à l'école, il ne perdra pas deux jambes. Voilà. C'est ça l'horreur et l'hypocrisie. Alors, beaucoup de pays ont signé cet accord, mais en fait, comme les principaux fabricants ne l'ont pas signé, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est une arme de terreur, de terreur des populations civiles, qui fait en aucune façon avancer un conflit militaire. Alors il y a une hypothèse que je reprends, qui circule à ce sujet, c'est de dire que les États-Unis sont obligés d'annoncer ça parce qu'ils n'ont plus rien à donner à Zelensky. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé tous les stocks de leurs obus classiques.
Moi je pense qu'ils veulent se débarrasser de ce
voilà,
stock-là.
Aussi, voilà. Ouais. Et puis aussi bien, alors s'ils veulent se débarrasser, ça voudrait dire qu'après, le fabricant reviendra frapper à la porte et dire « Ah, vous avez un budget de 800 milliards de dollars, on va remplir le stock ». Et apparemment, pour l'instant aussi, c'est une hypothèse.
Dire, nous avons donné, avons fourni.
On a été gentils, mais il faut renouveler le stock, il faut tout remplir. Alors, le même raisonnement se tient à peu près partout, en Allemagne, en France, etc. Ah, ben les stocks sont vides, donc allez-y, messieurs les gouvernements, messieurs les contribuables, merci, il faut remplir les stocks, on est content. Peu importe ce qu'il arrivera aux petits enfants philippins, laotiens.
En Afghanistan, il y en a eu, non ?
Bien sûr, oui, il y en a partout. Non, c'est une arme contre les civils, c'est une arme de terreur d'État.
Mais là, c'est contre le petit enfant ukrainien.
Oui, là, c'est mais tout à fait. Mais tant pis pour lui, tant pis pour lui. Voilà, c'est ça. Non, et c'est pour ça que, à la limite, Zelensky, il est criminel. Il ne sait plus quoi dire. Mais c'est effectivement, c'est ce qui restera de l'Ukraine quand il sera plus là, lui. Si, comme dit Poutine, alors j'ironise un peu, mais s'il y a quelque chose qui s'appelle encore Ukraine dans quelques années. La question étant posée, étant sur le tapis.
Ça, c'est autre chose.
Mais j'y reviendrai peut-être au cours d'une autre émission. Alors, et ce que j'ajoute, alors je finis sur le Parti communiste philippin, parce qu'il dit qu'en fait, cette campagne de bombardement par les forces armées des Philippines, parce que les États-Unis ne font pas ça eux-mêmes, ils ont donné les forces armées des Philippines, donc les armées du gouvernement, des bombes lourdes. Et donc, depuis 2017, ils disent qu'à nouveau, il y a des armes à fragmentation, des bombes à fragmentation massive qui sont utilisées sur le territoire des Philippines. Où il y a effectivement, vous le savez, une guérilla de très très longue date menée par le Parti communiste philippin qui n'a pas été éradiquée mais qui n'a pas réussi à renverser le pouvoir vu l'aide colossale que les États-Unis lui ont fournie et continuent à lui fournir. Bien, c'était, voilà, c'est une introduction un peu pas rigolote, oh, mais qui méritait
d'être dit.
Voilà. Et puis, je vais vous faire un peu voyager dans une zone touristique pour vous montrer que dans les zones touristiques, il se passe des choses étranges. On va dans un petit port, une station d'été sur la côte de la Toscane. Un petit port, ouais. Un petit village très très joli qui s'appelle Talamone, T-A-L-A-M-O-N-E, vous pouvez trouver ça sur le net, qui est en gros au niveau de l'île d'Elbe, vous voyez, en face du Cap Corse. Très joli coin pour les vacances, magnifique petit village, plage, petit port, etc. Et puis il se trouve qu'il y a une grande baie, donc la baie de Talamone, où de l'autre côté de la baie, il y a un quai, une espèce de quai où on peut amarrer des bateaux de pêche et tout, mais pas ouf, des choses comme ça, un quai de servitude, on dirait. Ouais. Et ces jours-ci, on a vu arriver dans la baie de Talamone un navire, ce qu'on appelle les navires rouliers, les navires sur lesquels on fait rentrer des camions, etc. Vous savez, des navires à manutention horizontale, comme on dit, qui est la propriété d'un armement saoudien qui s'appelle Bahri, B-A-H-R-I.
Ah oui, c'est connu.
Qui est connu. Et ce navire est venu. Alors, il est resté en rade parce qu'il ne pouvait pas. Le port, c'est presque rien du tout. C'est un petit port de pêche, donc il pouvait en rentrer. Il est resté en rade. Et on a vu arriver sur cette petite digue des camions, des containers. Et puis, tout ça, tout ce qu'il y avait dans ces camions et ces containers a été posé sur une espèce de péniche qui est allé à bord, qui est allé se mettre à couple, comme on dit, du bateau saoudien. Et puis, le matériel a été chargé. Alors, vous imaginez un petit port de plage, vous imaginez dans la baie de Bandol ou de Sanary, vous voyez tout à coup arriver un gros bateau, puis une étrange mobilisation, circuit de choses étranges. Bon. Alors, pourquoi ce bateau est venu là? Ça, c'est la première chose intéressante. C'est qu'il y a plusieurs années déjà, les travailleurs portuaires du port de Gênes, donc les dockers du port de Gênes, avaient décidé de refuser de charger ce bateau qui venait déjà chargé de l'armement italien à destination de zones de conflit. À l'époque, c'était pour le Yémen, enfin c'était pour l'Arabie Saoudite à destination contre les Yéménites. Donc, ils ont fait ça une ou deux fois. Et effectivement, ils ont eu un gros succès dans l'opinion progressiste. Et puis, le gouvernement italien a compris qu'il ne fallait pas recommencer, que ce n'était pas la peine. Ils avaient un appui. Ça rendait populaire, ça faisait connaître, y compris dans le monde entier, le fait que des travailleurs étaient capables de s'opposer à la guerre menée par leur pays ou favorisée par leur pays. Et donc, c'était pas présentable. D'où cette espèce d'arrivée de ce bateau, de le même bateau saoudien qui venait antérieurement à Gênes, d'une façon en catimini, le long d'une côte touristique où personne n'attendait et où ça n'a pas fait de bruit. Il était en rade, on a vu vaguement passer des camions, des containers et tout. La péniche qui est venue à côté du bateau, ça a été très très discret. Ceci étant, il y a quand même en Italie un mouvement anti-guerre qui est autrement plus important que ce qui peut être en France, où il est inexistant quasiment. Et donc, il y a des camarades qui ont averti de la présence de ce bateau que les Génois, que les dockers génois connaissent bien, et qui sont venus au moins prendre des photos et puis se renseigner. Et puis, il y a des sites internet qui suivent ce genre de choses. Et donc, on a découvert que l'embarquement, le matériel qui était là, venait d'une usine. Une usine qui fait surtout donc des bombes, des obus, des choses comme ça, des munitions, disons, qui appartient au groupe italien Simel, S-I-2-M-E-L, qui lui-même a été racheté il n'y a pas très longtemps par le groupe français Nexter. Vous savez, les Nexter, ça vous dit quelque chose, hein, nos fameux chars à nous, etc. Bon, ben Nexter, il faut savoir que Nexter est une grosse boîte qui est en train de s'étendre et qui a, alors non pas à Rouen, dans la région où ils font les chars, mais dans la banlieue de Bourges, une grosse usine de fabrication de munitions, d'obus, hein, pour être très très clair. Et peut-être même des obus à fragmentation, c'est pas impossible, j'en ai pas la preuve. Donc, ça, c'est très intéressant à savoir, c'est-à-dire que le gouvernement italien est obligé de clandestinement réaliser ce genre d'embarquement. La multinationale qui est derrière, donc Nexter et son associé de Simel italien, est contente puisqu'elle vend son matériel. Hein. Et ce qui est intéressant et très très révélateur, c'est que pendant cette opération d'embarquement qui a duré quelques heures, c'était pas une énorme, c'était pas des centaines de milliers de tonnes de matériel, des hélicoptères de l'US Navy sont venus surveiller l'opération. Tiens, tiens. Eh oui, des hélicoptères de l'US Navy, comme par hasard. C'est ça qui s'est passé. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que l'activité donc terroriste, hein, un gouvernement qui vend des armes dans des zones de conflit, est un gouvernement qui pratique le terrorisme, continue. Mais là, je voulais saluer les camarades italiens qui, par leur acte de refus de charger, ont obligé le gouvernement à travailler en coulisses dans des conditions compliquées, etc. Et donc ça se sait grâce à eux. Je ne sais pas si ça aura beaucoup, beaucoup d'impact médiatique, mais c'est bon de savoir qu'effectivement, les tricheurs, les tueurs, les vendeurs d'armes sont suivis. Je ne peux que souhaiter qu'il y ait en France des groupes plus nombreux qui aient la même attitude. Et ce n'est pas pour rien que j'ai cité Nexter. Hein, Nexter, c'est un des gros fabricants, un gros marchand de canons, comme on dit classiquement, français. Et il se trouve que ce gros marchand de canons, il grossit. Il grossit, et il faut savoir aussi que les complicités franco-italiennes en la matière sont très, très nombreuses. Très, très nombreuses. Elles ont lieu aussi. Oui, c'est à peine discret, mais elles ont lieu en particulier dans la construction navale, puisqu'il y a des frégates, on appelle donc des bâtiments de guerre de taille moyenne, qui ont été construites en Italie sur la base d'un projet et d'une architecture commune franco-italienne. Et donc, les vendeurs de canons français et les vendeurs de canons italiens se connaissent très très bien. Et chaque fois qu'ils peuvent, ils travaillent ensemble sur les mêmes objectifs politiques, puisque tout ce beau monde est dans l'OTAN, et donc on a effectivement les mêmes ennemis, et on se remplit les poches en faisant du mal à des Yéménites, des Syriens, des Irakiens, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. C'est comme ça que les choses se passent. Hein. Donc retenez, la compagnie Barry, alors il a été, alors vous savez qu'on peut tracer les bateaux maintenant sur le net, donc le bateau a quitté Talamone, c'était la semaine dernière, il est allé à Alexandrie en Égypte, le matériel a été débarqué. Où est-ce qu'il est allé on ne sait pas, mais il y a sûrement
Soudan,
des gens...
Hein, le Soudan.
Oui, il y a sûrement des gens qui savent où est-ce qu'il est allé. Hein. Il a pas, on ne l'a pas vu traverser le canal de Suez, mais la marchandise a circulé. Alors, est-ce qu'elle est repartie en Turquie, en Syrie, enfin, tout est possible, puisqu'on est dans des circuits clandestins, organisés sous la surveillance de l'OTAN. Retenez bien donc ça, Nexter.
Hein, Nexter, oui.
Nexter. Hein, donc, une grosse usine de chars d'assaut donc dans la région de Roanne et une grosse usine de munitions dans la banlieue immédiate de Bourges. Hein, c'est très bon à savoir. On pourrait faire une carte, une cartographie de l'industrie de guerre française, ça serait intéressant, parce qu'elle ne serait peut-être pas très difficile à faire, mais elle ne serait peut-être pas très médiatisée. Et à propos de médiatisation, et c'est cette médiatisation qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, il a été publié la semaine dernière par le nouveau Parti communiste italien la liste des implantations militaires états-uniennes sur le sol de la République italienne. Et là, on arrive à un document, alors que Comaguerre va reproduire et commenter dans les jours qui viennent, je vous en ferai part, le travail est en cours, mais c'est assez intéressant, c'est même passionnant, puisque c'est la première fois qu'il y a une liste totale de la totalité des implantations militaires états-uniennes sur le sol de la République italienne. Alors, quelquefois, ça s'appelle OTAN, quelquefois, ça s'appelle États-Unis, mais enfin, le résultat est le même. Pareil, hein. Il y a, donc, toutes les armes sont là, l'armée de terre, l'armée de la marine, US Navy, l'armée de l'air, et puis il y a en plus sur le sol italien tout un système de contrôle de l'espace aérien des télécommunications avec des grands radars, des captures de télécommunications, etc., qui non seulement couvrent l'Italie, mais couvrent la totalité du bassin méditerranéen. C'est-à-dire que depuis le territoire de la République italienne, l'armée des États-Unis sait exactement tout ce qui se passe à un instant donné, depuis Gibraltar jusqu'au canal de Suez. Et effectivement, regardez la carte, l'emplacement de l'Italie est parfait pour ça, hein, vision large. Hein. Alors on peut regarder même au nord, hein, du côté des Balkans, on peut regarder au sud, du côté de la Tunisie. Et j'ai vu dans cette liste extraordinaire qu'il y avait, alors tenez-vous bien, parce que pour ceux qui se préoccupent à juste titre de la question des immigrés africains qui se noient en Méditerranée, il y a une brigade des US Coast Guard à Lampedusa. Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est-à-dire que Lampedusa, vous savez, c'est la petite île qui est au large de la Sicile et qui sert souvent de point d'arrivée aux bateaux de migrants parce que de ce fait, ils ont le pied dans la République italienne et du fait des accords de Dublin, ils sont dans l'espace européen. Bon, alors, Très bien, alors on vous a dit qu'il y avait la police italienne, qu'il y avait les gardes-côtes italiens. C'est la première fois que je vois une mention des US Coast Guard, donc les gardes-côtes des États-Unis, à Lampedusa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les décisions sont prises non pas par l'État italien, mais par les États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. Hein, ça ne veut rien dire d'autre. Parce que quand on a 50 bases militaires, c'est pas une base, on vous dit il y a une base ici, une base là, mais là c'est pas du tout, c'est un pays qui est truffé de bases militaires des États-Unis avec du personnel fixe, il y en a partout, il y en a en Sardaigne, il y en a en Sicile, il y en a sur la totalité du territoire et tout, on n'est plus un pays indépendant, ça c'est formel. C'est d'autant plus intéressant à souligner que dans la constitution de la République italienne qui a été rédigée en 45 ou 46, tout de suite après la libération du territoire, il a été dit, et c'est écrit, et ça l'est toujours, que l'Italie ne fera la guerre à personne. Et donc effectivement, l'Italie ne faisant la guerre à personne ne peut pas dire qu'elle va faire la guerre à quelqu'un. Et donc il suffit de dire ben, aux Américains, enfin, c'est les Américains qui disent, ben, nous on est là, on fait la guerre à votre place.
Wow.
Voilà. Et quand il s'agit d'aller bombarder Belgrade ou le Kosovo, les avions partent, les avions états-uniens ou éventuellement italiens, puis c'est les mêmes modèles, vont bombarder Belgrade et le Kosovo. Quand il s'agit d'aller bombarder la Libye, ben effectivement, c'est les mêmes avions, depuis les mêmes bases, qui vont... Alors le gouvernement italien, moi, ma constitution dit que je ne fais pas la guerre. Non, c'est l'OTAN qui fait la guerre et c'est chez moi qu'ils sont installés.
Ouais.
L'hypocrisie est totale. Alors on peut se satisfaire du fait que, heureusement, en France, on n'est pas tout à fait aussi occupé que le sont ces pauvres Italiens, j'allais dire. Ouais. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a une présence discrète de quelques militaires de l'US Air Force à Istres et dans les bases de la force de frappe française, mais pas beaucoup de monde. On sait qu'à l'occasion, quand un porte-avions de la 6e flotte, dont le commandement est à Naples, je précise, vient séjourner dans les eaux françaises, il reste quelques jours à Marseille pour que les marins puissent aller se promener en ville et boire des coups. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas une présence permanente. L'Italie est occupée par l'armée des États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Hein, et c'est ça qu'on ne veut pas nous dire. Alors après, on nous dit, Madame Meloni, ce sera Monsieur Berlusconi. Rien du tout. Ils n'ont pas voix au chapitre. Et j'allais même insister là-dessus à propos de Berlusconi. Parce que je reviens sur la question de l'attaque, l'agression de la Libye. Vous savez que c'est Sarkozy qui a été le fer de lance, hein, l'homme qui a dit il faut y aller, il faut rentrer, il faut lui rentrer dedans, parlant de Kadhafi.
Kadhafi, ouais.
Alors il y avait à l'époque à la tête du gouvernement italien le fameux Silvio Berlusconi, dont je ne fais pas l'éloge, parce qu'il ne le mérite pas, mais il se trouve qu'en 2008, là on était en 2011, vous vous souvenez, en 2008, Berlusconi, qui était à nouveau président du Conseil, donc Premier ministre italien, avait décidé et avait signé avec Kadhafi un traité d'amitié. C'est-à-dire, il était allé le voir et il lui avait dit, écoute, bon, on s'est beaucoup battu, on vous a envahi, la colonisation italienne, vous avez fait beaucoup de misère, maintenant on arrête et puis on va trouver un terrain d'entente. Et le terrain d'entente, il existait, c'est-à-dire, vous avez du pétrole et du gaz, nous on n'en a pas, hein, donc on fait la paix, hein, et on vous achète votre pétrole, vous laissez la place à nos sociétés pétrolières, et puis voilà. C'était un arrangement classique d'affaires, mais enfin, voilà. Mais alors, ce monsieur Berlusconi se retrouve donc président du Conseil italien. Donc, on est au mois de mars, je crois, 2011, au moment où l'OTAN décide, alors Sarkozy flambant, disant il faut y aller, il faut y aller. Et Berlusconi est un peu embêté. Parce que d'abord, il a signé ce contrat, ce traité de paix, d'une certaine façon. Il sait que les intérêts de la bourgeoisie italienne et de l'Italien s'y retrouvent, puisqu'en fait, il y a un accès à de l'énergie que l'Italie n'a pas. Donc, au fond, il est assez content de son traité de paix. Mais le problème, c'est que là, ça ne va pas, parce que l'OTAN a décidé que Kadhafi, c'était fini. Hein, et donc, Berlusconi est mal à l'aise. Alors, il va finalement capituler en disant « Bon, ben, s'il faut y aller, allons-y et tout », mais un peu pas de gaieté de cœur, parce qu'on l'a réduit à la condition de serviteur. On t'a dit qu'il fallait faire ça, tu le fais, point à la ligne. C'est ça, les rapports avec les États-Unis en Italie. Bon, alors, il ne tombe pas tout de suite, il n'est pas tombé au mois de avril ou mai, mais il est tombé 6 mois après sur des questions qui n'ont rien à voir avec cette question-là, mais il est tombé pour ça. Il avait tenté la désobéissance au patron, et donc ça se paye. Mais pas tout de suite, on est poli, on est entre des gens qui sont du même monde quand même et tout, donc on n'allait pas lui dire « fous le camp, on te met à la porte », ça se fait pas. Mais il a perdu le pouvoir à ce moment-là, et il n'y est jamais revenu. C'est-à-dire que cet acte d'insubordination de M. Silvio Berlusconi, quoi qu'on pense du personnage par ailleurs, cet acte d'insubordination était inacceptable par le patron. Ce type n'est plus sûr, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, et lui, il commence à dire que ce n'est pas le bon moment. Il demandait une solution négociée à la question libyenne. Et c'était trop tard, c'était décidé qu'il y aurait la guerre, et il fallait qu'il y ait la guerre, c'est tout. Donc M. Berlusconi s'est trompé. Et depuis, et jusqu'à sa mort, il n'a jamais... Alors il a été élu sénateur et tout, mais il n'a jamais réussi à refaire surface politiquement, parce qu'il était interdit de séjour par les États-Unis d'Amérique sur le sol de la République italienne. Interdit de séjour politique, j'entends. Il vivait sa vie, par ailleurs. C'est ça, ça c'est une leçon extrêmement forte qu'il faut avoir en tête. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Je reviens sur un autre événement lié à la vie de la République italienne, mais qui est un peu plus ancien. On est en 1978, et il y a à la tête du gouvernement italien, donc on appelle ça le président du Conseil, un leader de la démocratie chrétienne, qui est le parti qui a tenu l'Italie en main depuis 1945 jusqu'à assez tard, jusqu'aux années 2000, un monsieur qui s'appelle Aldo Moro.
Aldo.
Alors, vous savez que là, c'est très, très connu. M. Aldo Moro, un beau matin, est enlevé par les Brigades Rouges.
Ouais.
Alors, ce n'est pas tout à fait un beau matin, parce que ce matin-là, précisément, M. Aldo Moro allait à la Chambre des députés dire qu'il avait décidé, en ayant bien réfléchi et pesé le pour et le contre, qu'il était temps de donner une place au gouvernement italien d'Italie, au Parti communiste italien. Ça ne plaisait pas à tout le monde, hein, ça ne plaisait pas à tout le monde. Ah, mais lui avait dit, si, quand même, ils sont là, ils ont fait preuve de beaucoup de compréhension, je ne m'étends pas là-dessus. Bon, il disait, ça vaut le coup, parce que c'est quand même un peu difficile qu'un parti qui regroupe tant de monde, qui est aussi puissant et tout, soit exclu définitivement de la scène politique italienne. C'était un moment, on était en 78, où un certain François Mitterrand avait signé un peu avant le programme commun de la gauche. C'était un moment où un certain nombre de partis communistes avaient décidé de montrer qu'ils étaient respectables, qu'ils pouvaient participer à un gouvernement dans une république capitaliste occidentale, mais qu'ils n'allaient pas prendre les ministères d'assaut, qu'ils n'allaient pas mettre le feu à la baraque. Donc c'était ça, cette période-là. Et en fait, M. Aldo Moro a été, finalement, il a été gardé donc, par les Brigades Rouges, je crois, 55 jours. Les Brigades Rouges ont pensé qu'ils arriveraient à négocier, c'est-à-dire qu'ils disaient « nous pensons que la politique d'Aldo Moro est bonne, hein, et donc, mais nous demandons à ce que le reste de ses partisans, la démocratie chrétienne, le pape, etc., disent que c'est bien qu'il y ait un accord pour que les communistes rentrent au gouvernement. » Mais il y avait, dans la démocratie chrétienne, il y avait dans le Vatican des gens qui n'en voulaient absolument pas. Et donc c'est ces gens-là qui ont gagné. Et pourquoi ils ont gagné? Parce que le même jour, écoutez bien, le même jour où les Brigades Rouges enlevaient Aldo Moro, le président Jimmy Carter envoyait en Italie, qui arrivait ce jour-là, un représentant qui est connu, qui s'appelle Steve Pieksnik, qui a fait un livre après, pour dire que, alors pour tâter le terrain et pour faire comprendre à la classe dirigeante italienne, démocratie chrétienne, papauté, etc., parti capitaliste italien, que l'idée de Moro, quand même, c'était pas très très bien. C'était inquiétant parce que les faire rentrer, oui, peut-être, il n'y avait pas trop de risques, mais après tout, est-ce qu'il n'y en aurait pas? Est-ce qu'ils n'allaient pas avoir de mauvaises idées, se mettre à dénoncer l'OTAN, à dire que si, que ça, etc. Donc il arrivait pour dire feu orange clignotant, attention, danger. C'était sa mission. Alors il a fait le tour des popotes, comme on dit, il est allé voir les uns les autres et tout, et il a fait état de la position du président des États-Unis. Bon, puis après il est reparti en disant « bon, je pense que j'ai fait passer le message ». Et quelques années après, il a fait écrire un livre que vous pouvez trouver, écrit en anglais, qui s'appelle, je dis le titre en anglais, « We killed Moro ». Nous avons tué Moro. Ce n'est pas les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges ont été l'arme, hein, la main qui a tenu le poing. Mais c'est nous qui avons décidé que Moro devait mourir. Après avoir analysé la situation, Moro avait cette idée-là, à laquelle il était attaché, qu'il avait exprimée. Mais en fait, le Vatican, la bourgeoisie italienne et le reste de la démocratie chrétienne, à commencer par celui qui va succéder à Aldo Moro, qui s'appelle Giulio Andreotti, eux ne voulaient pas. Et donc, et la veuve d'Aldo Moro dira, elle sera consciente, elle le dira après, je sais qu'ils ont laissé mourir mon mari parce qu'ils ne voulaient pas de sa politique. Point à la ligne, c'est tout. Bon. Donc je voulais insister là-dessus en disant, le jour où les États-Unis en Italie disent, ce monsieur-là, on ne le veut plus au gouvernement, eh bien, ce monsieur-là n'arrive plus au gouvernement. C'est ça la leçon. Mais ça, c'est une leçon tellement forte, parce que quand vous avez 50 bases militaires, des dizaines de milliers de soldats, des bombes atomiques américaines, des avions, des bateaux de guerre, etc., des porte-avions qui sont là en permanence chez vous, vous n'êtes pas tout à fait libre de vos mouvements. Hein. Vous n'êtes même pas indépendant, de facto. Hein. Alors ça, on ne s'en rend pas compte parce que l'avantage et le bénéfice d'avoir eu quelques années de Gaulle au pouvoir nous a évité cette position de sujet absolu des États-Unis. Alors il y a des influences, ils arrivent à mettre des Macron, des Sarkozy au pouvoir, etc. Il y a, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas des soldats américains dans tous les coins de notre territoire et tout. Bon, on est aligné sur des orientations générales, mais on n'est pas occupé. L'Italie est un pays occupé. C'est ça qu'il faut bien comprendre et je voulais développer à ce sujet-là. Et donc, il y aura, alors je le signale, donc je suis en train de rédiger un texte complet sur cet aspect-là des choses qui sera mis en circulation pour bien donner la dimension du phénomène. Et pour bien... Alors, Mme Meloni, celle qui est la présidente actuelle, Mme Meloni, en fait, a été formée par Silvio Berlusconi. C'est un peu le même genre, mais de toute façon, on a beau dire qu'elle est cela, elle est peut-être plus à droite que Berlusconi, j'en sais rien, mais de toute façon, elle n'est pas maîtresse chez elle, c'est tout, c'est ça que... Hein. Alors elle peut prendre des mesures anti-ouvrières, anti-sociales, etc. Ça, il n'y a pas de problème, elle est là pour ça, elle n'est pas la seule, d'autres gouvernements italiens l'ont fait de la même façon, mais elle n'est pas maître de la politique extérieure de l'Italie, parce que la politique extérieure de l'Italie, il n'y en a pas. Hein. Il y en a pas. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je regarde l'heure tranquillement.
Ouais, pour... ça va.
Oui, ça va. Ça va, Niki. J'allais vous parler un petit peu d'une visite qui n'a pas eu lieu. C'est la visite du notre fameux soi-disant représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne qui devait être accueilli à Pékin.
Ouais, ça a pas été.
Voilà. Alors il avait annoncé qu'il allait à Pékin, puis il avait dit, alors il avait montré les gros yeux, il avait fait preuve de beaucoup de vigueur anti-chinoise, hein. On va leur donner des leçons, le Xinjiang, les droits de l'homme, etc. Et puis à un moment donné, la Chine a dit, si c'est pour venir dire ça, vous pouvez rester chez vous. Hein. Ça on connaît le discours, hein. Perdez pas votre temps. Mais très poliment, les Chinois ont dit, revoyez votre demande d'invitation, on vous invitera sans doute, on refuse personne, on n'est pas méchant, mais là, quand même, vous y allez un peu fort, quand même, hein, parce qu'il faudrait qu'on change tout. Alors, il le faisait parce qu'il avait été inspiré par Mme Yellen. Alors, Mme Yellen, c'est la ministre des Finances de Monsieur Biden, et elle s'est défendue dans la même période, parce que c'était la consigne, il fallait dire aux Chinois d'arrêter d'être en opposition. Elle était venue faire des leçons sur l'économie libérale à Pékin. Alors on a été poli, bon, une ministre de Biden, bon, on lui ouvre des universités, on lui ouvre un amphi, elle cause et tout. Mais quand vous venez à Pékin faire l'éloge de la démocratie libérale et du capitalisme du marché, comme elle disait, bon, vous n'avez pas un écho très très fort. Vous n'avez pas un écho très très fort. Donc elle est venue, elle a perdu son temps, hein, mais très gentiment, puis ils l'ont laissé repartir. Elle n'avait pas marqué des points considérables parce que... Ils ont rappelé à cette occasion qu'effectivement, l'économie, ça se planifie. Quand on veut voir loin, ben on programme, on fait les choses sérieusement. On essaye toujours de prendre en considération les intérêts du peuple et que ce n'est pas seulement le marché, ce qui se vend ou ce qui ne se vend pas, qui est déterminant dans l'avenir de la communauté nationale. On peut raisonner autrement. Mais donc, comme ils sont très gentils, ils disent, venez, racontez vos salades, on les connaît, hein, et puis rentrez chez vous, au revoir madame, et bonjour, ouais, bonjour à votre mari.
On l'a vu sur le Méadine.
Voilà, vous l'avez vu, voilà. Ouais. Bon. Alors, on en est à ce niveau-là des relations, c'est-à-dire des relations qui sont polies, puisqu'on l'accueille, on ne fait pas des menaces, parce qu'on pourrait imaginer que les militants du Parti communiste chinois, qui viennent d'atteindre 99 millions de membres ces jours-ci, ils ont encore gagné 2 ou 3 millions d'adhérents. Oui, Ah oui, ben oui, ils ont la confiance d'une partie de la population, c'est tout à fait manifeste. Bon, donc on aurait pu, dans d'autres circonstances, imaginer des militants communistes chinois qui adorent Madame Yellen. Pas du tout. On dit, écoutez, exposez votre problème, de toute façon, on ne vous croit pas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est tout, merci d'être venu, et puis on en, voilà, à bientôt et bonjour chez vous. Et
oui,
bonjour.
Ça, c'est vrai qu'ils sont très forts pour ça.
Oui, oui.
Oui, voilà, nous, en Occident, on ne délivre pas de visa pour les persona non grata.
Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ils disent, ouais, venez dire du mal de nous. Venez dire du mal de nous. Ouais, ouais. C'est pas grave. Voilà. Enfin, elle est même pas... Oui, pas... Non, dire du mal, c'était Borrell. Lui, ils ont dit, écoutez, revoyez un peu votre discours. Hein, on vous accepte, mais quand même, venez pas juste pour nous cracher dessus. Bon. Ouais. Mais elle était venue pour faire... Oui,
un petit peu... Ouais, voilà. Sur l'économie. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est... Éloge de l'économie libérale. Ouais. Bon, voilà, bah, écoutez, nous, c'est pas notre truc.
C'est pas notre truc. Hein.
Donc, voilà, vous pouvez rentrer chez vous et bonjour à Joe.
Hein, voilà, Joe Biden.
Bonjour à Joe. Voilà. Oui, parce que alors, j'ai quelques citations de Borrell, là, mais il avait frappé fort. Alors, il disait « L'Union européenne et la Chine ont un intérêt commun à entretenir des relations constructives et sables. » Sables, bien sûr. Mais il observait quand même, et c'est pour ça qu'il est un peu en difficulté, 20% de nos exportations viennent de Chine, qui est la destination seulement de 9% de nos exportations. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 400 millions de déficits pour l'Union européenne dans le commerce avec les Chinois. Et c'est ça la réalité du travail. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien me dire que les droits de l'homme, si et ça et tout. De fait, l'Union européenne est un très gros acheteur et elle n'arrive pas à vendre grand-chose à la Chine. Elle aimerait vendre plus et tout. Bon. Donc voilà. Deuxième motif de mécontentement des Chinois, il était dit dans le texte qu'avait préparé Borrell, le Conseil européen, donc il avait avec le mandat donc, de tous les chefs d'État de l'Union européenne, le Conseil européen appelle la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette un terme à sa guerre d'agression et retire immédiatement, complètement et sans condition ses troupes d'Ukraine.
Bon, voilà. Oui, c'est facile.
C'est facile. Donc voilà, j'arrive, je suis rien du tout. Hein. Monsieur Borrell n'est élu par personne. C'est simplement un employé de Madame von der Leyen qui elle-même n'a été élue par personne, qui vient délivrer le message, qui est en fait le message des États-Unis. Alors, on peut d'ailleurs s'inquiéter sur l'espèce de bêtise de cette direction de la Commission européenne, qui en fait se préoccupe beaucoup moins des intérêts des pays européens que des intérêts des États-Unis. Et là, ils sont dans l'erreur totale, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, et on le voit déjà dans l'état de l'économie allemande, on va le voir dans l'état de l'économie française et tout, il n'y a pas intérêt à se fâcher avec la Chine. Alors ça se complique aussi dans les relations entre la Chine et les États-Unis, puisque après les tentatives qui sont en cours, puisqu'il y a eu des lois pour ça, pour empêcher que la Chine puisse se procurer un certain nombre d'éléments de technologie de pointe en matière de technique de l'information et de la communication, hein, en particulier des puces, on en a déjà parlé, la Chine vient de réagir en disant qu'à partir du 1er août, donc dans 15 jours, elle allait décider de contingenter et de contrôler les exportations de germanium. Et d'un autre, je crois qu'il y a un deuxième métal rare. Alors, ça fait partie des fameux métaux rares que j'ai évoqués l'autre jour. Et ce germanium sert beaucoup dans toutes les puces et dans toute une série de dispositifs électroniques comme ça. Et il se trouve que là encore, comme j'avais expliqué ça la semaine dernière, la Chine est aujourd'hui le seul producteur mondial. Simplement parce qu'ils n'ont pas abandonné cette production. Hein, non pas qu'il n'y ait pas de germanium dans d'autres pays de la Terre. Bon. Et donc s'ils décident de ne plus livrer du germanium, effectivement, il y a un certain nombre d'usines aux États-Unis qui vont s'arrêter. Parce qu'elles ne pourront plus fabriquer ce qu'elles ont en charge de fabriquer. Mmh. Alors, ils disent qu'il y aura un contrôle, un contingentement. Donc la menace est là, aux États-Unis, de réfléchir pour savoir si c'est vraiment une position correcte de continuer comme ça, ou si quand même il faut peut-être un peu assouplir plutôt que de venir donner des leçons sur l'économie libérale, si porteuse, si productrice, etc., etc. Voilà pour les relations. Alors, dernière chose, je regarde, c'est assez amusant, parce que je voulais vous parler, je vous avais parlé de la visite de notre président de la République à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. où il était venu à la suite du sommet du G7 à Hiroshima pour essayer de dire au président donc, de la Mongolie, je vais vous acheter de l'uranium. Et l'autre, bien tout constant, avait dit, ah oui, bah, s'il y en a, alors il y a effectivement un projet mené par les successeurs d'Areva, donc sur le sol de la Mongolie, pour fabriquer de l'uranium. Alors, l'uranium, la France en a besoin pour son parc nucléaire. Elle en a au Niger, on sait pourquoi et dans quelles conditions, mais elle est en train quand même de se préparer au cas où le Niger deviendrait un endroit difficile d'accès pour l'industrie française. Elle achète déjà depuis un certain temps au Kazakhstan. Et ajouter à ça de l'uranium mongol qui n'est pas encore produit, ça pouvait être une garantie, une tranquillité pour l'avenir. Et il se trouve que ces derniers jours, il y a eu une visite intéressante qui a été celle du président de l'Assemblée nationale mongole, dont je vous lis le nom, mais c'est illisible, qui s'appelle M. Gombayavizanda Chantar. Bon, mais je l'ai dit pour ça. Qui est allé à Moscou. Il a été très bien reçu par ses homologues du Parlement des deux chambres russes, pour parler des relations entre la Mongolie et la Russie améliorer et intensifier. Et là, on n'a pas parlé uranium, parce qu'évidemment, la Russie n'en a pas besoin, puisqu'elle en a, elle a tout ce qu'il lui faut. Mais on a parlé de choses concrètes, et la Mongolie va s'engager à livrer beaucoup de laine, beaucoup de cuir à la Russie, et puis à avoir des relations plus intenses avec la région voisine, la République socialiste d'Irkoutsk, qui est donc la république la mitoyenne de la Mongolie. Donc, il est allé, donc, au nom du gouvernement mongol, faire progresser la qualité des relations entre la Mongolie et la Russie d'actuel. Alors, pourquoi lui? Parce que d'une part, c'est le troisième personnage de l'État, donc président de l'Assemblée nationale, et parce qu'il a fait ses études en Russie et qu'il parle le russe parfaitement, donc il était tout à fait chez lui à Moscou. Ça, c'est des choses dont on ne dit pas, mais à côté, la visite de Macron était une espèce de visite publicitaire. Et là, non, on a parlé sérieusement. Effectivement, la laine, ben, y en a, il y a des boutons, du cuir, il y en a. Et donc là, on fait marcher l'industrie, l'activité économique de la Mongolie. Dernière chose. Oui, un petit commentaire sur les suites des émeutes françaises. Puisque vous savez qu'il y a eu, dans les jours qui se sont écoulés, toute une série de ce qu'on appelle les comparutions immédiates de jeunes gens, surtout des jeunes gens, quelques jeunes filles, ramassées un peu au hasard par la police, qui sont passées dans des comparutions rapides, sur consigne express du ministère de la Justice, qui a intimé l'ordre aux magistrats de faire ça très très vite et sans s'arrêter. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement a dit « sévissez ». Il a dit, et les magistrats, quand même... ont obéi, hein, on peut dire ça pour faire simple. Hein. Et il se trouve que les peines ont été très importantes par rapport à des faits qui peuvent être petits. Hein. On a vu une jeune fille condamnée parce qu'elle a vu que le supermarché à côté de chez elle avait été cassé, et elle a pris un sac et elle est allée faire des provisions pour sa maman. Hein. Et parce que pourquoi elle a fait ça? Parce que sa maman devait lui dire, tu sais, depuis le début de l'année, même l'année dernière, tout a augmenté, ci a augmenté, ça a augmenté et tout, et elle voit les portes du magasin ouvertes, elle prend son cabas et elle remplit. Bon, alors elle n'a pas eu de peine de prison, mais elle a eu des amendes et tout. Puis il y a des gens qui ont pris des 6 mois, 8 mois de prison et tout pour avoir volé quelque chose. Bon. Ça pose beaucoup de questions. D'abord, la discipline, enfin, l'obéissance de la magistrature. Et ces jeunes gens qui ont été pris, est-ce que c'est eux qui étaient les gens intéressants? Est-ce qu'on n'a pas eu affaire, en fait, à des nigauds, hein, qui sont laissés emporter par le mouvement, qui ont été pris parce qu'ils n'étaient pas méfiants par les forces de police, et c'est eux qui vont servir d'exemple, en disant, la République est irréprochable, vous avez fait un acte, un délit, vous êtes sanctionné pour ce délit, etc. Hein, histoire de faire peur aux autres. Je ne suis pas sûr, parce que je voudrais savoir si les bandes qui vendent de la drogue dans les cités marseillaises ont envoyé des agents pour faire le pillage. Je ne suis pas sûr, parce qu'ils ont peut-être été plus prudents. Parce que nous, ce qui compte, pour eux, je me mets à leur place, c'est le business. Aller voler un supermarché, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils gagnent d'habitude. Hein. Et aller voler un supermarché, ça veut dire courir le risque, effectivement, d'être ramassé d'une espèce de rafle, prendre 6 mois de prison pour un détail. S'ils devaient être poursuivis pour ce qu'ils font vraiment, alors je ne parle pas du guetteur, mais le guetteur fait partie du système, mais pour ceux qui le commandent, si eux, ils devaient être pris pour les délits qu'ils commettent, effectivement, à défaut même d'arroser à la Kalachnikov les concurrents, ça ne serait pas 6 mois de prison, ce serait beaucoup plus. Or, curieusement, apparemment, on n'en a pas pris de cela. Peut-être parce qu'ils ne sont pas venus. Hein. Alors, est-ce qu'à la limite, et je vais formuler une autre hypothèse parce que je l'ai entendu de la part d'une maman qui habite dans ces quartiers, qui m'a dit, alors je vous le dis, comme un témoignage, eh bien, ceux qui sont, qu'on a envoyés en ville pour voler dans les magasins, on leur donnait une prime. On leur donnait une prime. Et donc, ils sont allés.
C'est possible.
Hein, voilà. Alors, je mets ça sur la table pour bien faire réfléchir au fait que la façon médiatique de présenter ces émeutes et puis l'excès policier qui est dans la bouche de Darmanin, les caméras israéliennes et tout le bazar et tout, cache beaucoup de choses sur les relations entre la police et les vrais dangereux, les vrais délinquants, les délinquants graves qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent et qui s'entretuent à l'occasion. Et à côté, j'ai eu l'impression, en lisant les comptes rendus d'audience, il y a eu des comptes rendus d'audience, et les témoignages et les aveux, si aveux il y a, d'ailleurs, aucun n'a contesté avoir fait ce qu'il avait fait, mais la pauvreté des motivations, je suis allé avec les copains. Mais c'est pas ça, ça c'est pas une révolte populaire, c'est, oh ben on a dit qu'il y avait des choses à prendre dans les magasins, je suis allé prendre dans les magasins. Bon. Donc on a eu une présentation un peu déformée de la réalité, et je pense que petit à petit on y verra un peu plus clair. Je voulais insister là-dessus en disant que là aussi il faut faire très très attention parce qu'il y a un usage médiatique de ces événements. Par exemple, pourquoi les émeutiers ont mis le feu à un quart de touristes chinois? Quel rapport? Alors, est-ce que c'est pas ça? Enfin, il y a plein de questions qui se posent sur le fait que tout n'a pas été spontané, probablement, dans cette affaire-là. Les motifs sont réels, c'est-à-dire qu'effectivement, l'assassinat de Naël, la liquidation de Naël, c'est un motif réel, mais qui en a envoyé? Qui a fait les émeutes? À quoi ça leur a profité? Ils vont se retrouver pour une part en prison. On sait que les séjours en prison, surtout quand c'est une première condamnation, sont plutôt des séjours qui vous abîment au lieu de vous redresser. Donc, quel est le bénéfice? Je ne vois pas trop, si ce n'est celui de Darmanin premier. Je suis le maître de la situation et c'est moi qui commande, parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est moi qui commande, c'est Darmanin qui parle ou qui pense tout haut. Parce qu'effectivement, Macron en est réduit. Il sent que les élections prochaines, les prochaines présidentielles, à commencer par les apéritifs qui seront les européennes, vont être difficiles pour son parti. Et donc, il ne lui reste, et c'est un choix extrêmement grave, il ne lui reste qu'à tenir le discours du Rassemblement national pour prendre des voix au Rassemblement national. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'au fond, après, quand on vous dira, alors on le dit, on l'entend dans les cercles militants, non, pas Saran, ils ne passeront pas, le fascisme ne passera pas. Mais quand vous regardez concrètement les attitudes, les propos de Darmanin, vous dites, il ne passera pas, mais c'est quoi? Alors regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Je dis rien, concluez vous-même. Regardez bien ce que vous avez au pouvoir aujourd'hui. Et essayez de donner une traduction à cette politique. Ce n'est pas autre chose. Voilà, dernière chose, non, si j'ai encore une petite minute. Ouais. Non, je dirais simplement, oui, pour rire, que le Premier ministre britannique, qui, vous savez, est d'origine indienne, Rishi Sunak, a été reçu après le G20. Alors, ce n'est pas tout frais, mais j'ai eu des commentaires là-dessus, c'était intéressant, par M. Modi, le Premier ministre indien. Et en fait, ils ne se sont pas bien entendus. Ils ne se sont pas bien entendus parce qu'au fond, M. Rishi Sunak fait partie de ceux qui disent « Oui, au début, j'étais indien, mes parents sont nés au Punjab, ou même peut-être lui aussi est né au Punjab, mais c'est tout. Maintenant, je suis un Britannique, je suis le Premier ministre de Sa Majesté, point à la ligne, c'est tout. » Et il appuie ses propos par la position de sa ministre de l'Intérieur, qui est aussi, elle, d'origine indienne, et qui dit attention à l'immigration des Indiens sur notre pays. Je ne veux pas. Je me méfie des Indiens. Alors, vous voyez, une belle dame, héritière venue d'Inde, avec son premier ministre venu d'Inde, qui dit, vous savez, les immigrés indiens, moi, je n'ai pas confiance. Comme quoi, on devient le représentant, non pas de son origine, son ADN, on a le représentant d'un pouvoir et d'une bourgeoisie. C'est pour ça que M. Rishi Sunak est devenu Premier ministre. Parce qu'il tient les propos de la grande bourgeoisie. Et on sait que c'est le premier ministre britannique, le plus riche de toute l'histoire de l'histoire britannique, au passage. Donc, il a une position de riche, de gros capitaliste, c'est tout. Sa couleur de peau n'a aucune importance. Alors, sortons-nous de ces clichés-là. C'est un agent du capitalisme, c'est un profiteur du système, c'est tout. C'est tout. N'en disons pas plus. Voilà. Merci de votre attention. On avait écouté de musique, mais tant pis. Et on se retrouvera évidemment mardi prochain. Bonne semaine. Alors demain soir, vous écouterez une rediffusion de l'émission mensuelle qu'on a consacrée en février à la bataille de Stalingrad, qui a été le tournant de la Deuxième Guerre mondiale, et à ses suites. Voilà. Bonne fin de journée. À bientôt.
Bravo, merci, Roselyne. Rose.